Théologie biblique, Père Philippe Saint-Joseph, 16 octobre 1984.
Je rappelle un peu la signification de ce que nous intitulons théologie biblique, qui n'est pas une théologie biblique au sens propre, mais qui est une lecture de l'Écriture, en essayant de découvrir dans l'Écriture les significations profondes que l'Esprit Saint veut nous révéler à travers ces hommes dont il se sert pour nous révéler le mystère de Dieu, le mystère de l'homme. Vous voyez, je prends d'une façon ultime et dernière les écrits johanniques en voyant l'Apocalypse, la première épître de Saint Jean et puis l'Évangile. Cela, nous y tenons beaucoup, puisque c'est cela qu'on doit creuser tout le temps. Et il faudrait regarder à travers toute la tradition de l'Église tous les grands amis de Saint Jean au niveau théologique comme au niveau mystique. Vous voyez tout de suite un Saint Augustin, un Saint Jean de la Croix. Ce sont des amis de Saint Jean. Ça, on ne peut pas le nier. Et il faut que notre lecture en profondeur de Saint Jean se serve de tous ses amis pour arriver à découvrir à travers Saint Jean une grande théologie mystique. Puisque je crois que la théologie mystique, en dernier lieu, elle ne peut se faire que dans la lumière même de l'Évangile de Saint Jean. Nous verrons ça demain. À côté de cette lecture de Saint Jean, je voudrais avec vous, dans la mesure où nous pouvons, regarder les grands livres de l'Écriture de l'Ancien Testament qui doivent nous aider à découvrir la vision de Dieu sur l'homme. Et en même temps, ce que représente le lien de l'homme avec Dieu. Chaque fois que Dieu nous révèle davantage ce qu'est l'homme, il se révèle à travers l'homme. Et chaque fois que nous découvrons davantage ce qu'est Dieu, nous comprenons mieux ce qu'est l'homme. Et c'est un peu dans cette lumière que j'essaie avec vous, que nous avons essayé l'année dernière de voir le point de vue de la Genèse. Nous n'avons pas tout à fait terminé, nous terminerons, parce que je crois que c'est important quand même de terminer la Genèse. On pourrait sauter en disant, il reste 5 chapitres, je crois, alors on pourrait sauter directement et entrer dans la grande vision de Moïse. Nous la verrons ensemble, parce que Moïse, c'est le médiateur. C'est toute la théologie de la médiation qui nous est donnée à l'état encore très imparfait dans Moïse, mais qui est quand même très présente. Et à ce point de vue-là, elle est très importante pour nous. Je vous disais, quand on regarde la Genèse, je crois que la Genèse, nous devons l'aimer d'une façon très particulière, parce que c'est la théologie fondamentale et la théologie de la famille. Or, comme le Saint-Père nous demande de revenir beaucoup à la théologie de la famille, je crois que nous devons faire cet effort d'étudier la théologie de la famille à l'intérieur même de ces grands passages de la Genèse. Nous allons voir ça ensemble. Alors, je reviens, les 11 premiers chapitres de la Genèse. C'est la crypte de toute l'Écriture. C'est l'Esprit Saint qui se sert des traditions primitives religieuses. Et quand l'Esprit Saint se sert de traditions religieuses primitives, l'Esprit Saint veut nous faire comprendre ce qu'il y a de tout à fait fondamental dans toute la révélation. Et c'est pour ça que les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui est la crypte de toute l'Écriture, nous devons les regarder toujours avec grande, grande attention. D'autant plus qu'aujourd'hui, on les laisse un peu tomber. Ce n'est pas à cause de ça que nous devons regarder plus, mais nous devons être plus attentifs parce qu'on les laisse tomber. Alors, il ne faut pas les laisser tomber. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ont une très grande importance. Dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse, qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes en face d'un regard préhistorique, au sens fort. Ce n'est pas de l'histoire. La commission biblique l'a précisé, du reste, il y a quelques années, au début de ce siècle, en disant que c'est un langage symbolique mais pas historique. C'est intéressant, du reste. Alors, quand on dit que c'est un langage symbolique, on dit que c'est un langage symbolique, mais d'un symbolisme divin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Ce n'est pas du tout uniquement un symbole poétique. Il y a une réalité qui nous est révélée. On veut montrer d'abord, dans les deux récits de la création, ces deux récits complémentaires, la création est l'œuvre de la sagesse de Dieu, premier récit. La création est l'œuvre de l'amour de Dieu, second récit. Le premier est très ordonné, et le second est beaucoup plus chaotique. Le premier nous montre l'ordre de la sagesse à travers un ordre temporel d'une semaine. Et le second nous montre la hâte de Dieu qui fait tout de suite son chef-d'œuvre. Le premier nous montre que Dieu est créateur par la parole. Le second nous montre que Dieu est créateur par le geste. Et c'est important de voir que tout de suite la révélation implique parole et geste. On a beaucoup développé le point de vue de la parole, on a beaucoup moins développé le point de vue du geste. Nous n'avons pas une théologie du geste, alors qu'il devrait y avoir une théologie du geste. Et la théologie du geste, je crois, ne peut être reprise que dans une théologie mystique. C'est dans une théologie mystique qu'on peut assumer tout le point de vue du geste. Dans une théologie dite scientifique, on ne peut pas. Tandis que dans une théologie mystique, on le peut. Parce que le geste a une valeur symbolique beaucoup plus affective que la parole. Le geste est beaucoup plus proche du cœur. La parole est proche de l'intelligence. Et le symbole fait le lien entre le point de vue de l'intelligence et du cœur. Mais le geste reste toujours très proche du cœur. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer par la parole et qu'on exprime par le geste. Ce qu'il y a de plus affectif, donc ce qu'il y a de plus tendre et de plus fort. Le suavitaire et le fortitaire de l'Esprit Saint s'expriment plus par le geste que par la parole. Et c'est toute la conduite de Dieu qu'il faut essayer de comprendre. Dans ces deux premiers récits, dans ces deux premiers récits de la création, il nous est montré comment l'homme et la femme sont le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu les aime d'un amour unique. Et selon le second récit du geste, on peut dire même que c'est la femme qui est la benjamine, puisque Dieu n'a pas arrêté son œuvre de créateur après avoir créé l'homme, mais après avoir créé la femme. C'est le repos de Dieu après, pour bien signaler que tout s'achève selon l'ordre de la création dans la femme. Et nous comprendrons comment, selon l'ordre de la recréation, tout s'achève dans la femme, dans Marie. Il y a là quelque chose de très important pour nous. La femme n'est pas seulement relative à l'homme, mais la femme est à la fois celle qui dispose et celle qui achève. Tout l'achèvement se réalise dans la femme, puisqu'elle est médiatrice dans l'ordre de l'amour. Et elle est en même temps celle qui prépare tout, celle qui dispose. C'est le rôle de la médiation. La médiation a toujours deux aspects. Un aspect de disposition et un aspect d'achèvement. C'est très curieux, ça. On le verra avec Moïse, hein, parce que c'est le médiateur. Vous allez me dire, ah, mais Moïse, c'est un homme, c'est pas une femme. Ah oui, mais Moïse prépare Marie. Et je ne peux pas m'arrêter à Moïse. Moïse est encore de là. Alors, il y a un contraste très étonnant entre Moïse et Marie. Et pour bien comprendre le mystère de Marie, il faut regarder le mystère de Moïse. Alors, on le comprend par une espèce de parallélisme très étonnant. Donc, dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, il y a d'abord ce premier point où nous comprenons que l'homme est créé à l'image de Dieu parce que Dieu communique à l'homme trois grandes dimensions. C'est l'anthropologie fondamentale religieuse. Le dominium, l'intelligence et l'amour. Et pour bien comprendre cet ordre voulu par Dieu entre ces trois dimensions, le dominium, l'intelligence et l'amour, il faut regarder comment le démon qui intervient sous la forme symbolique du serpent vient mettre un désordre. L'ordre de la sagesse nous est révélé par le désordre que vient mettre le démon. Le démon ne crée rien, mais le démon est toujours celui qui enlève l'ordre de la sagesse. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas laisser de côté le démon. Parce qu'il nous aide à comprendre l'ordre de la sagesse. C'est peut-être pour ça que Dieu lui donne ce pouvoir, lui donne cette espèce de permission. C'est que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de l'antithèse. Pour comprendre mieux ce que représente l'ordre de la sagesse de Dieu. Alors, il ne s'agit pas de faire une thèse et une antithèse qui mêle les deux et qui fait la synthèse, vous comprenez? Alors à ce moment-là, on aurait le démon qui ferait une partie particulière de l'Église et qui ferait la synthèse avec l'Église et le démon, ou Marie et le démon, on aurait la synthèse. Alors, mais on a besoin de l'antithèse, on a besoin du contraire. Notre intelligence a besoin des contraires pour mieux comprendre ce qu'est la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ce gouvernement divin qui nous est montré à partir du premier péché, le péché d'orgueil de la femme. Le péché d'orgueil d'Ève. La première faute. Où nous voyons le premier qui fait une herméneutique fausse de la parole de Dieu. Le démon tente la femme, il la séduit par une interprétation fausse de la parole de Dieu. Ève répète docilement en croyance, en obéissant. Et le démon s'oppose, alors dialectiquement, très curieux, il s'oppose dialectiquement à la pensée de Dieu. Dans une interprétation de ce que Ève répète du secret de Dieu. Et il montre que c'est faux. Et qu'il ne faut pas comprendre la parole de Dieu de cette manière. Parce qu'il veut libérer la femme de l'obéissance à l'égard de Dieu. Première théologie de la libération. Elle est là. C'est le démon qui veut libérer la femme de l'obéissance et de la foi à l'égard de la parole de Dieu. Et cette théologie de la libération montre qu'on va être comme des dieux par le point de vue de l'intelligence. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ce serait intéressant de creuser un peu cet aspect du démon libérateur de la femme, voulant être libérateur de la femme en la tentant et en faisant une interprétation, une herméneutique fausse de la parole de Dieu. À la place de l'obéissance et de l'amour, il met le développement de l'intelligence. Et c'est le développement de l'intelligence qui doit sauver la femme, la libérer complètement et non plus l'obéissance et l'amour. Première faute, l'orgueil. Deuxième faute, la jalousie qui conduit à l'homicide. C'est un homme, là. C'est Caïn qui s'oppose à Abel. Ce geste se fait, ou plus exactement, cette jalousie, elle naît à partir d'un geste liturgique. Il ne faut pas l'oublier. La première chose que les fils d'Ève font chassés du paradis terrestre, c'est un geste liturgique pour nous faire comprendre que le péché n'enlève pas l'attitude religieuse et que l'attitude religieuse, elle est naturelle. Elle n'est pas attachée à la grâce. Et donc, reconnaître la grandeur du Créateur et faire un geste liturgique d'adoration, c'est la nature humaine qui est capable de le faire, même quand elle est chassée du paradis terrestre. Mais ce n'est pas le geste liturgique qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'intention des cœurs. Or, Caïn fait le geste liturgique en ayant son cœur loin de Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est de voir ce que son frère réalise. Et il est furieux de voir que Dieu a l'air de s'intéresser beaucoup plus à Abel qu'à lui. En tant que fils aîné, il ne peut pas supporter ça. Alors là, il y a quelque chose qui est très important, je crois, à saisir, c'est qu'on ne peut pas adorer Dieu en gardant ses droits. Le droit de Caïn, c'est le droit d'aînesse. Or, il n'abdique pas son droit d'aînesse. Il ne l'offre pas. Le fonctionnaire ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu tant qu'on garde ses droits, ses privilèges. On ne peut pas adorer Dieu. C'est montré très nettement dans l'Apocalypse. Les 24 vieillards, lorsqu'ils adorent Dieu, jettent leur couronne. Nous avons tous une petite couronne qui souvent est très vissée à notre tête. Est tellement vissée à notre tête que nous n'arrivons pas à l'enlever. Nous croyons que c'est nous. C'est la créature créée à l'image de Dieu qui adore Dieu. Et ce ne sont pas la dignité que nous avons acquise ou que d'autres ont acquis pour nous. Ce ne sont pas nos privilèges, ce ne sont pas nos fonctions, ce ne sont pas nos droits qui peuvent adorer Dieu. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui accepte d'être dans la nudité en face de Dieu, la nudité de la créature, qui se reconnaît totalement dépendante de Dieu et qui reconnaît qu'elle n'est rien par elle-même et qu'elle n'a rien. La véritable humilité, elle est en face de Dieu. Et la véritable pauvreté, elle est en face de Dieu. Et c'est l'adoration qui nous permet d'entrer dans cette nudité. Tant qu'on n'entre pas dans cette nudité, on n'adore pas Dieu. Et si on n'adore pas Dieu, on n'est pas en présence de Dieu. S'il n'y a pas l'adoration, il ne peut pas y avoir d'oraison. Il peut y avoir une méditation. Ah oui, il y a ça, méditer, oui. Il peut y avoir des considérations extraordinairement intelligentes. On peut être génial. Sans adorer Dieu, on peut être génial. Ça ne tient pas aussi. Sans adorer Dieu, on peut planter des vignes. On peut construire des maisons. On peut construire des statues. On peut faire des choses extraordinaires sans adorer Dieu. Et on n'entre pas dans la contemplation. On reste à un niveau horizontal. On n'entre pas dans ce contact direct avec Dieu. C'est très important de voir le second péché, la jalousie. Jalousie religieuse et fraternelle. Caïn n'adore pas. Il fait les gestes liturgiques à l'extérieur, mais il louche sur Abel. Abel adore. Et Abel, parce qu'il adore, il échappe complètement à la tutelle de Caïn. Il est libre. On est libre quand on adore Dieu. Alors on est immédiatement remis à Dieu. Second péché, la jalousie religieuse fraternelle qui conduit au fratricide. Quand on est jaloux de son frère, on est capable de le tuer. Ça n'a pas changé, vous savez. Ça n'a pas changé. C'est préhistorique. C'est quelque chose qui est fondamental dans le cœur de l'homme. Troisième faute, l'iniquité généralisée. L'homme n'a plus aucun respect de l'homme. L'homme ne regarde plus l'homme comme l'image de Dieu. D'où l'iniquité généralisée. L'homme n'a plus aucun respect sur l'homme. Et tout est repris grâce à Noé. L'alliance avec Noé est comme une recréation tout à fait particulière dans l'arche de Noé. C'est une recréation, c'est une reprise radicale de tout. Ce n'est pas une création nouvelle, mais c'est une reprise radicale de tout. C'est pour ça que Noé est une préfiguration du Christ. Mais même cette recréation ne dure pas dans la fidélité et dans l'adoration. Petit à petit, les hommes préfèrent ce qui vient d'eux plutôt que ce qui vient de Dieu. Et nous avons le symbolisme de la tour de Babel. Je crois qu'il faut toujours mettre en parallèle ces quatre moments qui sont les quatre grandes fautes qui ponctuent l'histoire de l'humanité. Les 11 premiers chapitres de la Genèse ponctuent l'histoire de l'humanité. Chassés du paradis terrestre, nous y sommes, chassés du paradis terrestre, à cause de l'orgueil. En opposition vis-à-vis de nos frères, malgré la liturgie, et en jalousie farouche vis-à-vis d'eux. L'iniquité généralisée qui fait que Dieu a un dégoût des hommes et que Dieu reprend tout à travers un homme, Noé. L'humanité ne reconnaît pas cette miséricorde nouvelle de Dieu. L'humanité se laisse aller à un orgueil collectif. Bien, je crois que nous sommes là en présence de la petite maquette divine de l'histoire des hommes. J'ai demandé au père Dreyfus dans le temps, quand j'étais au Solchoir, si je pouvais dire ça, parce que c'est quand même... mais d'avoir la réaction d'un exégète. Le père Dreyfus m'a dit, oui, c'est même comme ça qu'on doit regarder ces 11 premiers chapitres de la Genèse, parce que c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est comme une espèce de métaphysique divine, si vous voulez. C'est métahistorique. Et donc ces méta-historiques, c'est beaucoup plus proche de nous que l'histoire, hein, forcément. Chassé du paradis terrestre, c'est beaucoup plus proche de nous qu'Abraham, parce que nous vivons. Et que nous sommes tous chassés du paradis terrestre. Et que nous sommes chassés du paradis terrestre sans que ce soit de notre faute. C'est pour ça que c'est insupportable. Notre nature humaine, en Adam, a connu la dignité d'une nature humaine avant le péché. C'est pas loin de nous tout ça. Métaphysiquement parlant, c'est pas loin de nous. C'est dans l'ordre de l'être. Alors c'est intéressant de regarder cette petite maquette de l'histoire de l'humanité, chassée du paradis terrestre. La jalousie du frère aîné par rapport au petit Benjamin. On voit très bien. Le petit Benjamin, religieux par excellence. Et la jalousie du frère aîné qui ne veut pas jeter sa couronne et qui veut garder ses droits d'aînesse au niveau religieux, au niveau de la parole de Dieu. Et nous voyons le mystère de Jésus qui arrive au moment de la grande catastrophe, si vous voulez, ou au moment de la grande désolation, au moment où l'humanité ne sait plus où elle va, au moment où l'humanité est complètement déchue. Et Jésus arrive à ce moment pour tout recréer, pour tout reprendre. Et les hommes ne comprennent pas, et les hommes construisent la tour de Babel. C'est l'orgueil collectif des hommes. Il n'y a plus de place pour Dieu dans leur intelligence. Et je crois que c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui. Ce symbolisme de la tour de Babel. Dieu est obligé de regarder à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Parce que l'orgueil collectif empêche Dieu de demeurer dans notre cœur. Nous arrêtons l'action de Dieu. Et nous empêchons Dieu de tout regarder à l'intérieur. Et je crois que c'est la petite maquette qui nous montre les quatre grands moments de l'histoire de l'humanité. Avec Abraham, c'est l'histoire qui commence. Alors, avant d'entrer dans l'histoire d'Abraham, comprenez bien comment le démon essaie, par ses différentes fautes, d'enlever l'ordre voulu par la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, nous pouvons dire ceci. L'imago Dei, l'image de Dieu, implique dominium, intelligence, volonté. Saint Augustin dit mémoire, intelligence, volonté. J'aime mieux reprendre le terme de l'écriture. Mémoire, c'est la même chose dans une perspective néoplatonicienne. Alors reprenons le terme de l'écriture, dominium, intelligence et amour et volonté. Donc intelligence, archère de l'humanité, qui est le monde de l'amour. Je crois que selon l'ordre de la sagesse de Dieu, le dominium est ordonné à l'archère de la vérité, et toute recherche de la vérité est ordonnée à l'amour. C'est comme ça que je peux comprendre ce qu'est la contemplation. Que va faire le démon? Première tentation, l'exaltation de l'intelligence. On va supprimer l'amour et pour l'exaltation de l'intelligence. Donc un primat absolu d'intelligence. C'est bien ça l'orgueil. C'est de faire que l'intelligence passe toujours devant. La seconde faute montre que s'il y a un primat de l'intelligence, on ne peut plus aimer son frère. Alors je dirais tout simplement que les deux premières fautes font comprendre comment le primat de l'intelligence supprime l'adoration, supprime la charité fraternelle. Et remplace l'adoration par sa propre exaltation, on garde sa couronne de droit d'aînesse, et remplace la charité fraternelle par la jalousie et le fratricide. Voilà les deux premières fautes. Ces deux premières fautes engendrent progressivement l'iniquité généralisée. Ces deux premières fautes engendrent progressivement l'iniquité généralisée. Il y a une dialectique du péché, il y a une dialectique du mal. Et c'est cela, je crois, qui nous fait comprendre ce troisième moment, l'iniquité généralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de justice. L'homme ne respecte plus l'homme. Il n'y a plus aucune justice. Et parce que l'homme ne respecte plus l'homme, Dieu a un dégoût. Dieu veut vomir l'homme. Il a envie de le supprimer. Tout est repris grâce à l'histoire de Noé. Noé qui est celui qui va venir reprendre tout et tout remettre dans l'ordre divin. Et les hommes ne comprennent pas, et alors vous avez la première faute qui est l'orgueil personnel qui va se transformer en un orgueil collectif, le symbolisme de la tour de Babel. Et quand il y a un orgueil collectif, qu'est-ce qui domine? C'est justement la tyrannie et le dominium. Ce n'est plus l'intelligence comme telle, mais c'est le dominium. La tour de Babel, c'est la volonté de dominer. C'est la tyrannie. C'est l'homme qui devient tyrannique. La dernière faute, c'est la tyrannie. C'est-à-dire qu'au fond, l'amour est supprimé, l'intelligence est au service du dominion. Donc, on a l'inversion totale de l'imago Dei. Et je crois que c'est exprimé par le symbolisme de la tour de Babel. Nous entrons avec Abraham dans l'histoire. Même si quelquefois c'est difficile de retrouver les choses textuelles et qu'il y a des légendes, oui. Mais vous savez bien, les légendes sont quelquefois plus vraies qu'une réalité strictement historique. Surtout pour un personnage comme Abraham. C'est un personnage, Abraham. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de grand. Alors, nous voyons comment Dieu va tout reprendre. Donc, c'est l'étendue de Noé qui va être repris. Alors, qui va être repris au niveau proprement historique. Puisque Noé préfigure le Christ. Il s'agit de comprendre comment la préfiguration du Christ va s'incarner dans le temps pour aboutir progressivement au Christ. Premier moment où Dieu reprend l'humanité, c'est avec Abraham, par la foi. Vous voyez, c'est l'esprit de l'homme que Dieu reprend en premier lieu. C'est son intelligence et son cœur. Et c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est de voir que Dieu, dans sa pédagogie divine, dans sa catéchèse divine. Dieu commence à regarder le cœur d'Abraham. C'est toujours ce que nous devons regarder en premier lieu. Toute catéchèse divine regarde le cœur de l'homme pour sanctifier le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme que nous devons en premier lieu convertir. C'est l'Esprit Saint qui le convertit, c'est bien évident. Et nous devons aider l'Esprit Saint à convertir le cœur. Ce n'est pas son intelligence. Ne cherchez jamais à convertir un homme d'abord par l'intelligence. Vous n'y arriverez jamais. Mais convertissez quelqu'un par le cœur. C'est la pédagogie divine, ça. C'est Dieu qui nous l'enseigne. C'est la catéchèse divine. Et le cœur du Père, très important. Un Père qui n'a pas encore d'enfant. Un Père qui connaît cette chose terrible d'avoir désiré d'avoir des enfants et qui n'en a pas. Qui subit la stérilité de Sarah. Et c'est le cœur d'un Père. Ensuite, ce sera le cœur du Fils. Et en troisième lieu, ce sera le cœur du petit-fils. C'est le cœur de ces trois. De ces trois pères que nous voyons en premier lieu. Alors, c'est beau de voir la manière dont Dieu convertit le cœur par la foi. Abraham est le père de la foi, mais c'est son cœur que Dieu regarde, hein, et c'est le cœur du Père. Alors, c'est très important de saisir, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je regarde le petit chêne Dominium, intelligence et volonté, vous comprenez que ce que Dieu va saisir dans le cœur d'Abraham, c'est sa capacité de vivre, son cœur. Son cœur de père. C'est pour ça que tout de suite, la vocation d'Abraham va être liée à la fécondité. C'est par la fécondité que Dieu s'introduit dans son peuple et que Dieu va réaliser quelque chose de particulièrement grand dans Abraham. C'est le cœur du père par le volume de la foi. La foi implique un amour. Le Concile d'Orange nous dit que le point de départ de la foi, c'est la pia affectio. Donc c'est l'attitude pieuse de notre cœur qui incline notre intelligence. Il faut l'amour pour que l'intelligence devienne souple. Notre intelligence autrement est rigide, hein, ça, c'est bien évident. Et il faut que l'amour pour que notre intelligence devienne souple, pour que notre intelligence s'ouvre à quelque chose qu'elle ne saisit pas par elle-même et qu'elle ne peut pas saisir par elle-même, quelque chose qui lui est donné d'en haut. C'est ça la foi, c'est recevoir. Le mot est la bonne dans Saint Jean. Recevoir, c'est l'intelligence qui reçoit, c'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus elle-même. L'intelligence est d'abord réceptivité, elle reçoit. Qu'elle a une avidité. Alors, pour que l'intelligence puisse s'ouvrir à la vérité, il faut ce poids d'amour et ce premier amour. Et Dieu prend comme premier amour l'amour du Père. Parce que, et je crois qu'on peut le dire, qu'est-ce qui est resté pur au-delà de la faute? Au-delà de l'orgueil, au-delà de ce que représentent les conséquences du péché, c'est le lien du cœur de l'homme avec ce qui provient de lui, c'est-à-dire le cœur du Père. Dans l'ancienne alliance, Dieu regarde en premier lieu le cœur du Père, pas le cœur de la mère. Le cœur de la mère, ce sera pour la nouvelle alliance. Le cœur du Père, c'est l'ancienne alliance. Alors on pourrait se demander pourquoi, enfin, point de vue théologique. Toute l'ancienne alliance prépare la nouvelle. Alors si c'est vrai ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la femme prépare et achève, je comprends très bien comment l'Ancien Testament, c'est le cœur du Père qui conduit à la plénitude, puisque Marie ne sera pas seulement un aspect, ce sera toute elle-même qui sera purifiée. Et donc, on peut dire que la conversion du cœur de Marie dans le mystère de l'Immaculée Conception, c'est une conversion. C'est une petite créature qui est totalement convertie. Donc, qui est totalement remise à Dieu, et totalement remise au Père. Cette conversion, elle est préfigurée par la conversion d'Abraham. Alors, voyons bien ces trois, Abraham, Isaac, Jacob, vont nous montrer comme trois modalités particulières de la conversion que Dieu opère. Conversion du cœur. Conversion du Père au sens radical dans Abraham. Alors, toute l'histoire d'Abraham, nous avons essayé de voir, nous fait comprendre comment la foi progressivement s'empare de toute l'intelligence et de tout le cœur d'Abraham. C'est la grandeur de ce mystère d'Abraham. Avec Isaac, nous comprenons comment le fils bien-aimé, le fils qu'Abraham aime d'une façon si étonnante, ce fils va recevoir lui aussi la bénédiction et va devenir père. C'est l'espérance. Et puis Jacob, on peut dire d'une certaine manière que c'est la charité. Ces trois pères sont comme un reflet du mystère de la très sainte Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui chacun ont l'autorité du Père. Et c'est pour ça que je peux dire que c'est le reflet de cette autorité paternelle que nous voyons dans Abraham, dans Isaac et Jacob. Pour bien comprendre que cette autorité paternelle prend de fait trois modalités dans le mystère de la très sainte Trinité. Puisque le Fils a autorité et l'Esprit Saint a autorité. Et donc, on retrouve dans le mystère de Dieu ces trois grandes modalités de l'autorité divine, préfigurée d'une façon très imparfaite, mais d'une façon réelle, dans Abraham, Isaac et Jacob. Et par Abraham, Isaac et Jacob, c'est la famille qui est reprise. Dieu reprend non seulement le Père, mais par le Père, il va reprendre son épouse et l'enfant. Alors, c'est là où on pourrait se demander dans quelle mesure y a-t-il une petite préfiguration, vous savez, pour une théologie de l'Église. Si on veut faire une théologie de l'Église aujourd'hui, il faut écouter ce que le Saint-Père nous dit en disant que la famille, c'est une Église domestique. Et si la famille est une Église domestique, elle a la même mission que Jésus. Elle a donc une mission sacerdotale, une mission royale et une mission prophétique. Alors, est-ce que nous pouvons, quand nous voyons de cette manière particulière la préfiguration de la reprise de la famille, voir d'une manière lointaine, dans une préfiguration, les trois grands aspects de la famille ? Abraham c'est le Père, c'est royal. C'est bien évident. Isaac, c'est le Fils médiateur. Il a été victime. Il ne faut pas l'oublier. Le petit Abraham, il est lié au sacerdoce d'une façon très particulière, par son état victimal. Il est instrument de Dieu d'une façon très particulière, quand de fait il est aveugle et qu'il va bénir celui qui ne veut pas bénir. Ça, c'est l'instrument par excellence. Et qu'il ne se met pas en colère quand il s'en aperçoit. Nous nous serions tous mis en colère. Nous aurions dit à Rebecca qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Isaac s'est tué. Il a été un instrument merveilleux. Et je crois que Jacob, c'est tout l'aspect prophétique des 12 tribus d'Israël. On retrouve, voyez, c'est ça qui est assez étonnant, parce que c'est par là qu'on saisit la plénitude d'un mystère, quand on voit les préfigurations et puis l'épanouissement dernier. Parce que c'est assez beau si vraiment la famille chrétienne a cette triple mission, je peux dire que c'est commencé avec Abraham. Il y a une continuité. Et que si la famille a été reprise par trois fois, Abraham, Isaac, Jacob, c'est que l'Ancien Testament est lié à la famille d'une façon très spéciale, encore plus que la Nouvelle Alliance. Parce que la famille est fondamentale et que l'Ancien Testament est fondamental. Alors, il est normal de retrouver dans ces trois alliances successives trois grands aspects de la famille dans la lumière de la sagesse de Dieu, encore une fois. Je ne pourrais pas le saisir autrement. Et c'est vrai qu'il y a trois types de familles très différentes. Abraham et Sarah, ça forme un couple assez particulier. Pas commode à vivre, mais heureusement qu'Abraham est royal, alors tout s'arrange. Il est magnanime, il est d'une grandeur étonnante. Abraham, la famille ensuite d'Isaac et de Rebecca, c'est aussi assez particulier. Et vous voyez, la femme prend de plus en plus de place. Ça, il faut bien le reconnaître, hein. Puisque c'est elle qui va choisir au bon moment. Elle fait passer Jacob devant Ésaü. C'est elle qui choisit. Parce que le choix était d'abord dicté par Dieu, mais elle l'a retenu. Et elle le dit au bon moment. Puis le troisième moment, la famille de Jacob, qui représente quelque chose de tout à fait différent, fondamental par rapport à tout le peuple d'Israël, prophétique. Prophétique à travers tous ses enfants. Joseph est prophétique, Benjamin est prophétique, Ruben est prophétique, tous sont prophétiques. Ça, nous verrons, parce que c'est très important de voir ce caractère prophétique de la famille de Jacob.